Et on est en gros questionnement, moi et Pascal, c'est...
Pleut-tu? On regarde les flaques, on voit-tu
des... Pleut-tu ou il pleut pas? Puis là, on regarde dehors. Pourquoi on se pose cette question-là? On en jase, c'est simple, parce que c'est 17 degrés aujourd'hui, mais avec des averses.
Pis, là, ça a l'air mouillé, mais ouais, est-ce qu'en ce moment, il pleut?
Donc là, on se disait, est-tu en train de mouiller ou pas? Mais bref, il va en avoir cet après-midi, malheureusement. Et faites attention, ça peut être des rafales jusqu'à 70 km/h. Donc, ça va être des bons... un averse, hein? Ouais, des bons averses qui va tomber. Un ou une averse?
Une.
Une?
Oui.
Des bonnes averses.
Une averse de pluie.
Ben oui, voyons. Qu'est-ce que j'avais là avec mon français? Pluie intermittente pour demain, 8 degrés. Demain, mercredi, on parle jusqu'à 10 mm de pluie. Retour du soleil, par contre, pour jeudi, 13 degrés et vendredi, 10 degrés Celsius. On vous parle souvent de notre application de blvd.fm et là, je vous parle de notre page YouTube. Pourquoi? Parce que si vous êtes abonné à notre page YouTube Boulevard 101, le quatrième épisode du podcast Les grands événements de Québec est disponible depuis ce matin. C'est un entretien avec Roger Ferland, un collaborateur qu'on adore ici à Boulevard, ex-enquêteur au SPVQ. Puis ça donne qu'il était l'enquêteur en chef du groupe Shark, le groupe d'enquête qui a fait un excellent travail durant la guerre des motards. Alors Roger revient sur cette époque entre 1994 et 2002 où le conflit a fait plus de 150 morts, dont 9 personnes innocentes. C'est un podcast à ne pas manquer. C'était sur nos ondes hier, 19h. Et là, c'est disponible sur notre page YouTube. Donc, ne manquez pas ce podcast. Allez l'écouter en grand nombre. Pascal Séveille, là, il se passe plein d'affaires. Ouais. Il semble avoir une manifestation anti-gouvernement devant l'Assemblée nationale. C'est vrai que ça irait mieux si on n'avait pas de gouvernement. L'anarchie, toi!
Ouais, là, à voir comment on gère les réseaux sociaux, je suis pas certaine que ce serait l'idée qu'il n'y ait pas minimalement un encadrement. Mais tu sais, ça, c'est... Écoute, ce sont des commentaires qui n'engagent que moi.
Exactement.
Mais oui, il y a manifestation en ce moment devant l'Assemblée nationale à Québec. C'est effectivement une manifestation anti-gouvernement. Pourquoi? Bien, à 14h, on attend le discours inaugural à l'Assemblée nationale de Christine Fréchette. Alors, il y a des attentes. C'est la première fois qu'elle sera à l'intérieur des murs en tant que première ministre. Alors, tout le monde va avoir les yeux rivés vers ça. Ça se peut que vous, à Shop, non. Là, on comprend, mais on va le suivre pour vous. Ce qu'on croit aussi qui sera annoncé cet après-midi, du moins discuté, c'est un nouveau projet de loi. Alors, tout premier projet de loi déposé sous Christine Fréchette. C'est pour renouveler dès maintenant la disposition de dérogation de la Charte canadienne des droits et libertés pour blinder la loi 96 sur le français. C'est contre les poursuites pendant 5 ans. C'est la presse qui avait appris ça ce matin. Et le ministre Jean-François Roberge va être porté de déposer le projet de loi là, dès demain, au lendemain donc du retour des députés à l'Assemblée nationale, chose qui est faite aujourd'hui. Mais on a eu quand même confirmation à ce niveau-là. Si vous étiez dans le caucus Iacarini, vous avez appris en même temps que nous que Claude Villeneuve est le nouveau directeur des communications à l'aile parlementaire du Parti québécois.
Excusez-vous, c'est Boulevard en passant. On était les premiers à le sortir avant le Journal de Québec de Québécois. Donc, c'est payant d'écouter Boulevard 102.
Claude Villeneuve, qui était candidat à la dernière course à la mairie, oui. Je veux dire ça comme ça, de la ville de Québec et qui a été connu pour plein de chapeaux. Là. C'est pas la première fois qu'il est en politique. Cette fois-ci, il va se retrouver un peu plus derrière. Mais c'est un poste clé que d'être directeur des communications. C'est l'ancienne juge à la Cour suprême du Canada, Louise Arbour, qui devient la prochaine gouverneure générale du Canada. Elle succède donc à Mary Simon. C'est un poste prestigieux, bien que... Il y a beaucoup de critiques à cet endroit-là, mais c'est le poste de représentant du roi Charles au Canada. Tout un CV, Mme Arbour, entre autres comme haute commissaire des Nations unies aux droits de la personne. C'est vraiment quelqu'un qui a une fiche étoffée. Les villes de Québec et de Montréal lançaient un cri du cœur aujourd'hui au gouvernement Fréchette. On veut s'attaquer à la crise des infrastructures. Et aujourd'hui, il y a eu prise de parole de notre maire Bruno Marchand. Il était dans une conférence avec la mairesse Soraya Martinez-Ferrada du côté de la communauté métropolitaine de Montréal. Ce qu'on dit, c'est que on demande, en fait, d'arrêter c'est dit de même, Christie d'appel à projets qui prennent du temps et qui sont supposés s'en venir, mais qui sont souvent insuffisants. C'est ce que notre maire de Québec a dit haut et fort aujourd'hui.
Ben moi, je suis très d'accord avec lui, mais ça, c'est pour toutes les strates de gouvernement, autant le fédéral que le provincial, que même le municipal. Essaye de partir un projet, c'est un organisme communautaire ou une entreprise. Hostif que t'as de la paperasse à remplir.
Puis là, elle réclame, la Ville de Québec et de Montréal, donc de revoir complètement le financement des projets. On veut donner l'argent nécessaire aux villes pour qu'elles s'attaquent elles-mêmes au déficit, donc un petit peu plus de gestion personnelle,
oui.
Là, au niveau de la
puis un petit peu plus de latitude aussi. Oui. Puis, tu sais, cela dit, on peut être en désaccord avec nos mairies respectives, mais normalement, là.
Là-dessus,
c'est pas mal eux autres, les maires et mairesses, qui connaissent un petit peu plus ce que le terrain a de besoin que le grand Mark Carney qui est à Ottawa ou un peu à travers le monde. Fait que je suis d'accord avec eux sur la proposition et l'objectif derrière ça.
Permets-moi de mettre de côté les audiences sur la mort de Maëline Luguez, parce qu'on va en reparler plus tard.
Exactement.
Avec la journaliste du Soleil. Permets-moi aussi d'aller vite sur, malheureusement, là, les deux mineurs frappés du côté de Beauport hier, là, à l'intersection du boulevard des Chutes et de la rue Francheville. On sait qu'il y a un homme qui a été arrêté. On attend toujours qu'il comparaisse aujourd'hui au palais de justice de Québec, arrêté pour conduite dangereuse causant des lésions. C'est un homme de 67 ans. Et pourquoi je me suis permis ça, c'est pour donner un peu de temps à cette nouvelle-là qui vient de sortir.
Vas-y.
Écoute, c'est digne d'un film. Là, c'est un gars qui s'appelle Mathieu Giguère qui forçait des victimes à consommer de la drogue, à écouter des lectures religieuses et qui les agressait par la suite. C'est un dossier sur un homme de Donnacona. Il a reconnu avoir agressé sexuellement deux femmes. Il les hébergeait chez lui dans un genre de délire religieux, puis il les incitait à boire un genre de potion de champignons magiques et il les forçait à avoir entre autres une relation à trois dans ce qui est déclaré là, dans l'article du Journal de Québec. Puis ça a laissé des séquelles psychologiques importantes à l'une de ces femmes-là. Elle, comment elle a dit ça en cours, c'est qu'il lui a transmis un cancer de l'âme et c'est des conséquences à des événements qui sont assez proches de nous, c'est à l'été 2025. Donc,
ça vient,
l'été passé. Alors, comme je vous disais, c'est Giguère, là, Mathieu Giguère, qui est condamné à 42 mois de pénitencier pour agression sexuelle sur deux femmes.
Hey, on ne le dira jamais assez, mesdames, si quelqu'un vous dit qu'il faut absolument faire une relation sexuelle, vous n'avez pas le goût, là, le consentement, vous dites non, puis c'est fini.
Puis on entend beaucoup parler du phénomène de se faire héberger avec la hausse des loyers contre des relations
Quel
sexuelles.
Bon
point. Marketplace, c'est étrange, mais des fois, il y a ce type d'annonce-là. Puis c'est un peu ce qu'il faisait, lui. Il les hébergeait dans un genre de bateau insalubre qui était sur son le terrain d'une connaissance. Puis là, c'est là qu'il fournissait de la drogue en échange.
Ouais,
c'est là qu'il les obligeait, tiens, à avoir
C'est beaucoup comme ça que ça se passe. Pense au fameux Père Noël là, du Petit Champlain qui avait le même modus opérandi. Hey, je vais juste vous parler rapidement, avant qu'on parle avec Alicia Despins, de l'histoire de Rose Guérin, qui est une jeune femme maintenant âgée dans la vingtaine qui, à 13 ans, décide de faire un processus de transition de genre. Vous avez bien compris, à 13 ans. Son témoignage est dans le documentaire « Génération trans » de Jean-Pierre Roy, qui a été annulé, la projection qui a été annulée au cinéma Quartier, en raison, là, justement, de pression très forte de la communauté. Eh bien, sachez qu'à 13 ans, et dès l'âge de 14 ans, on lui a prescrit de la testostérone pour que Rose devienne Maxime. À l'âge de 16 ans, elle s'est fait enlever les deux sein. À ce moment-là, tous ces traitements-là sont couverts par le régime public d'assurance maladie, donc la RAMQ. À 17 ans, juste avant la grande opération, donc avant de faire changer son sexe, elle décide de ne plus continuer son processus de transition et elle dit alors à sa mère, en fondant en larmes, que dans le fond, je suis pas un gars. J'avais toujours été juste une fille très mal dans sa peau, se souvient celle qui travaille maintenant comme patrouilleuse pour la SPCA de Montréal. Et là, bien, elle veut suivre des traitements de détransition, donc se faire enlever la pilosité masculine, éclaircir sa voix, reconstituer ses seins. Elle a maintenant un copain. Par chance, le processus avec la testostérone et tout ça font en sorte que ça ne lui a pas enlevé sa fertilité. Elle est encore fertile. Elle souhaiterait...
Mais ça aurait pu, c'est ce qu'on comprend.
Ça aurait pu. Elle souhaiterait avoir des enfants. Et là, ça coûte 30 000 $. Mais sais-tu quoi? La RAMQ, elle ne paye pas pour la détransition de genre. Elle paye pour la transition, mais pas pour la détransition.
Ça, c'est des choses importantes à discuter, je pense, dans le fameux phénomène de transition de genre. Avec les enfants, tu sais, on peut pas avoir tout sur la table pour un projet de société. Mais je sais que c'est un projet personnel, c'est une quête d'identité, mais ça reste que c'est le genre de discours important.
Exactement. Et il y a l'Université York à Toronto qui a analysé justement, qui a fait une étude auprès de 957 personnes qui ont fait la transition de genre dans le même cas que Rose avait fait pour devenir Maxime. Et j'ai été étonné du résultat parce qu'il y a un tiers des répondants qui disent avoir un fort sentiment de regret décisionnel par rapport à leur processus de transition de genre. Ça m'allume énormément parce que on en parlait l'autre jour, on en jase, on disait, ça me semble que c'est un processus qui devrait être accompagné par un psychologue, qui devrait être accompagné par un psychiatre. Ça devrait être un processus où je suis énormément d'étapes avant d'en arriver à ma transition de genre, qui devrait arriver aux alentours de l'âge adulte. Parce que, tu sais, si avant 18 ans, t'as pas l'âge de consommer une bière, je pense pas que t'as l'âge pour décider de quel genre tu es. Et là, j'ai trouvé ça vraiment étonnant et dérangeant comme statistique que le tiers des 957 personnes, fait que ça veut dire au-delà de 300 personnes, regrettent leur décision. On va parler avec Rose Guérin vendredi 13h. Ne manquez pas ça, c'est un rendez-vous. C'est la disponibilité qu'elle avait cette semaine pour nous. J'ai très hâte de discuter avec elle. Je vous souhaite le bonheur dans sa vie, puis j'ai hâte de voir justement vers tout le parcours. Puis si jamais vous voulez l'encourager dans son processus de détransition, on va en parler aussi vendredi, mais elle a parti un GoFundMe pour ramasser le 30 000 $ qui n'est pas assumé par la RAMQ dans ce cas-là. Ça va être une belle entrevue, ça, Pascal?
Moi, j'ai hâte de l'entendre.
Moi aussi.
Je la trouve très courageuse.
Ah, vraiment très courageuse. Puis chapeau à elle de sortir comme ça dans les médias, de mettre son visage pour le Québec en entier, pour parler justement de cette problématique-là. Tu sais, il y a deux problématiques, moi, que je vois là-dedans. La problématique de l'âge qui est beaucoup trop précoce pour décider d'une transition de genre. Et la problématique, si la RAMQ paye pour la transition, pourquoi paye pas pour la détransition? Je trouve ça un petit peu bizarre de la part de nos paliers de gouvernement.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Aubaine, des produits de qualité à prix de liquidation. Des nouveaux...
Mon erreur, je croyais avoir placé un petit bed, comme on appelle dans le jargon, puis ça a l'air que je ne l'avais pas placé. Alors, c'est l'heure d'aller rejoindre Alicia Despins, notre chroniqueuse en politique municipale. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Alicia, c'est une trollée de nouvelles en une journée en politique municipale. Comme tu m'as écrit, c'est une semaine de politique municipale qui est là pour nous.
Il est juste 13 heures, là.
Oui, c'est ça. On va commencer avec Respect citoyen, une amende de 1000 $ concernant justement un retard pour avoir déposé nos états financiers. Ça, c'était en 2024.
Oui, 1000 $ ça fait mal. Là. Quand tu promènes une dette là, de 61 000 $ déjà, là, ça se prend pas à la légère, tout mm-hmm. ça. Je pense que ça montre que le DGEQ, le directeur général des élections, il niaise pas. Là.
Non,
le DGEQ,
ouais.
Il regarde chaque petit détail. Il n'y a pas de place à l'erreur. Jamais avec le DGEQ, il va appliquer les règles à la lettre. Donc, tout ce qui est retard, oubli, manque de précision, etc., surtout pour des rapports comme ça, qui sont très importants, ben c'est ça. Ils appliquent les règles, puis c'est ça que ça donne. À travers tout ça, on attend encore là, des nouvelles là, de l'enquête là, sur la promesse là, d'un emploi, Stéphane Lachance et Sam Ahmad là, en campagne électorale, on s'en souvient. Bon, à suivre. Mais bref, ça fait que c'est pas une très bonne journée, là, tout ça, pour rester citoyen aujourd'hui.
Non, c'est justement, et ça fait en sorte que je pense que le DG est en train de faire une enquête vraiment approfondie sur l'épopée Sam Ahmad, Respect citoyen, et rappelons-le, les deux ont pratiquement plaidé coupables en disant qu'ils s'étaient rencontrés, là. Puis Marc Roussin...
Ils se sont pas mal incriminés, c'est ça, là.
C'est
ça. Ça va être de voir, bon, comment ils vont gérer ça, le DGEQ, à qui la faute, une faute partagée, c'est quoi les conséquences de part et d'autre. On sait que, bon, sa maman n'est pas élue, donc est-ce qu'il va avoir des fautes ou des conséquences plus graves pour Stéphane Lachance, qui, lui, a un parti qui existe encore, qui est élu, etc. Ça va être à suivre, mais c'est sûr que d'un point de vue de crédibilité pour Stéphane Lachance, c'est pas bon tout ça, là. Moi, j'ai lu deux articles dans les derniers 24 heures là, qui relatent des propos du chef de Respect citoyen qui ne sont pas tout à fait exacts. Là. Il y a celui sur les passages sur une piste cyclable, il y a celui sur le tunnel du tramway. C'est ça, crédibilité en baisse constante de ce côté-là.
Oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on en a parlé beaucoup des pistes cyclables avec Mathias Turcotte hier, puis on en a reparlé dans Marceau le matin. Là, Respect citoyen tente de contre-attaquer. Mathias est présentement à leur conférence de presse. Il nous a envoyé un document où on présente un sondage du tramway qui, sans surprise, est défavorable au projet. On le sait, de toute façon, ça a toujours été défavorable dans l'opinion publique. Mais pourtant, Respect citoyen nous avait dit « Hey, on va être autre chose que un parti politique qui est anti-tramway, mais quand ça va mal, on retombe toujours dans nos vieilles bottines de l'anti-tramway. » Je comprends que l'opinion populaire n'est pas pour le tramway, puis ça va le rester jusqu'à la fin des travaux, puis peut-être même quand il va être là. Mais là, à un moment donné, il faut s'attarder à d'autres choses, parce que là, la semaine prochaine, le gouvernement fédéral va annoncer qu'il finance le projet. Le projet va se faire, puis sais-tu quoi? Il est temps qu'un projet se fasse en capitale nationale. Fait que là, on peut-tu parler d'autres choses de la part de l'opposition officielle, s'il vous plaît?
Ben c'est ça. Puis en plus, c'est quelque chose qu'ils ont répété il y a quelques jours ou quelques semaines à peine. Là. Donc, c'est des propos qu'ils ont tenus récemment, ça, de dire vous allez voir, on a de la profondeur, on va aller plus loin, on va s'intéresser à autre chose. Puis même, à un moment donné, Stéphane Lachance était très proche de dire essentiellement c'est correct, on le voit que le tramway va se faire, on va arrêter d'être des parcs.
Oui, 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 on le sentait.
Puis on va commencer à être rigoureux sur d'autres dossiers. Puis là, on dirait qu'ils retombent dans leurs pantoufles, ils retombent dans leurs affaires.
Comment on explique ça, Alicia? Est-ce que c'est parce qu'on n'a rien d'autre à prendre en ce moment? C'est-tu parce qu'on sent que le pouls de la population est encore négatif face au projet? Écoute, là, notre ami Mathias Turcotte est à l'Hôtel de Ville. On vient de lui présenter un genre de sondage. Puis dans ce sondage-là, il est écrit: êtes-vous d'accord que les gouvernements municipal et provincial aident l'avant avec le projet de tramway si son coût est de 7,6 milliards? 66 % sont fortement ou plutôt en désaccord, 30 % fortement ou plutôt d'accord. Est-ce que c'est pour prendre cette vague-là pendant qu'elle est quand même grande?
Parce qu'ils ont quelque chose sous la dent, là. Peut-être que c'est ça. On a déjà parlé en ondes ici de dire, bon, ils ont 1 million de dollars par année, sur quoi ils devraient dépenser cet argent-là? Puis j'avais dit, bien, des études, des sondages, toutes sortes d'affaires comme ça, des documents, quelque chose de sérieux, ça peut les aider, là, clairement. Ils ont mis de l'argent là-dessus, ils ont leur sondage. Par contre, ça traite encore une fois du tramway. Donc, tu n'amènes pas un nouvel élément dans le débat, tu n'amènes pas un nouveau sujet. On dirait que tout le monde est un peu tanné là, déjà d'entendre ça. Puis c'est sûr qu'on peut se questionner aussi. Là, on pourrait avoir des longs débats sur cette question-là quand on pose la question à des gens. Voulez-vous dépenser de l'argent pour le projet? Le taux d'approbation, il descend systématiquement. C'est normal. Il n'y a personne qui veut. Tout le monde veut des belles affaires, mais personne ne veut dépenser l'argent pour ces belles affaires-là. Fait que pour moi, ce n'est pas surprenant le résultat de ce sondage-là. Puis comme je le dis, ça arrive à un moment où là, ils ont dit sur la place publique qu'il n'y avait personne qui voulait construire le tunnel du tramway. Tout de suite, ils se font dire que non, c'est pas vrai. Quand on lit l'article sur l'étude là, maison un peu qu'ils ont faite avec des citoyens sur les passages sur une piste cyclable, on voit qu'à plusieurs reprises, ils disent certaines choses qui finalement ne sont pas vraies. C'est difficile là, de les prendre au sérieux. Puis je pense que s'ils allaient dans une autre direction avec un autre dossier, parlons de l'Hôtel Dieu, par exemple, à défendre une position, à défendre une autre position, ben peut-être qu'ils seraient capables de retrouver cette crédibilité-là puis démontrer qu'ils ne sont pas le parti d'une seule opposition, finalement, à un projet.
C'est tellement bon ce que tu amènes avec l'Hôtel Dieu, parce que ça faisait justement partie d'un sujet que je voulais te parler. Hier, sorti d'Étienne Grandmont et de Michel Massé, qui est justement le... c'est drôle, Alicia, tiens.
On voit Claude Villeneuve à l'Assemblée nationale.
On va revenir sur l'Hôtel Dieu dans 2 secondes. Claude Villeneuve est avec Pascal Bérubé devant l'Assemblée nationale. On l'a dit ici sur les ondes de Boulevard 101, on a été les premiers à le dire avec Antonine Iaccarini. C'est le nouveau directeur des communications de Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, ça a été ton boss à l'Hôtel de Ville. T'en penses quoi?
Moi, je pense que c'est un très bon gain, très bon ajout pour le PQ. J'en ai long à dire sur le PQ, sur les communications. Je pense qu'il y avait vraiment besoin de quelqu'un comme Claude Villeneuve à ce moment-ci, alors qu'il est encore le temps là, de venir rétablir tout ça, puis de venir poursuivre le momentum pour l'automne. Claude Villeneuve, qui est quelqu'un qui est super, qui est reconnu pour ça, qui est super posé, super réfléchi.
Il y a même la misère aux joutes, là, un peu plus démagogue de la politique des fois, puis il a essayé pendant la dernière campagne municipale, mais on le sentait pas à l'aise, puis c'était pas naturel.
Exact. Puis peut-être que c'est une bonne chose à ce moment-ci avec cette personne-là à la tête du Parti québécois, donc Paul Saint-Pierre Plamondon puis Claude Villeneuve. Peut-être qu'ils vont être super complémentaires, puis il y a de quoi de super beau
qui
va se
passer. Qu'est-ce
que
tu veux dire, Alicia? Tu trouves que peut-être PSPP est un peu plus sanguin que Claude Villeneuve?
Ah oui, ben oui. Merci de préciser mes pensées, effectivement. Puis au contraire, ben Claude Villeneuve, c'est pas ça du tout. Donc, je pense qu'il y a de quoi d'intéressant là. Moi, je suis super contente pour Claude qui revient à ses amours, finalement. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment la meilleure personne pour ça.
Ah, t'as entièrement raison. Puis quand tu as dit tout à l'heure, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, j'aurais beaucoup de choses à dire sur les communications avec le PQ. Moi aussi, je vais juste dire que dans les 5 partis politiques présentement à l'Assemblée nationale, c'est eux ou avoir une réponse « Oh my God, que c'est tough ». Fait que peut-être que Claude Villeneuve va être capable de remettre un peu de l'ordre. Puis ceci dit, c'est pas pour les critiquer. T'sais, écoute, c'est une équipe qui en a eu plein les bras. Il y était trois députés, une petite équipe. Ils se sont retrouvés premiers dans les sondages avec tout le monde qui veut parler à ces députés-là. Donc, je comprends aussi qu'ils ont cette réalité-là qui était très difficile. On revient à l'Hôtel-Dieu de Québec. Alicia, chroniqueuse politique municipale, tu disais que ça serait un bon dossier pour respect citoyen. Excellente sortie hier de QS d'Étienne Grandmont qui disait « Hey, wow, minute, là! » On est en train de déménager tous les services spécialisés de l'Hôtel-Dieu à l'Enfant Jésus. Ça va se faire d'ici 2031. On veut ramener des citoyens dans le Vieux-Québec, mais on leur enlève leurs services. C'est exactement le genre de sortie qu'une opposition officielle devrait faire pour dire « Hey, la ville de Québec, là, le centre-ville, c'est primordial. On peut pas bouger ça n'importe comment. »
Ben oui, puis en plus, c'est un quartier qui n'est pas du tout représenté par respect citoyen, donc ils ont tout avantage là, à aller chercher des appuis de ce côté-là. Avec le conseil des quartiers, le comité citoyen du Vieux-Québec, M. Mass, dont on entend souvent parler, là, qui est très présent, les oppositions, ben en fait, Québec solidaire, là, une des oppositions à l'Assemblée nationale, ça fait pas mal de monde, puis pour moi, ça représente qu'il y a quand même un consensus là, au sein des citoyens, même s'ils sont très peu dans le Vieux-Québec, il y a un consensus que ça va être... ce ne sera pas super. La seule personne qui manque autour de cette table-là pour cette annonce-là, finalement, c'est quelqu'un qui représente les commerçants. Parce que pour moi, l'impact va beaucoup se sentir là. Du moment que l'Hôtel-Dieu déménage, bien, c'est plus d'infirmières, plus de visiteurs, plus de travailleurs là, de l'Hôtel-Dieu qui vont manger le midi, qui vont faire leur petite commission ici et là, ou qui vont prendre un verre après la job. Ça fait pas mal de monde, puis ces gens-là sont là à l'année longue. Tu sais, le tourisme, il n'y en a pas de problème dans le Vieux-Québec là, en plein mois de juillet, mais en plein mois de mars ou de dans, je sais pas, février, là, à l'extérieur du carnaval, c'est plus difficile. D'un autre côté, tu sais, je les comprends, ces décisions-là, dans le sens où on, je ne sais pas si on peut vraiment considérer un hôpital comme un service de proximité. Je pense qu'on est moins là, là, collectivement, on veut des installations de qualité, on veut des services de qualité, puis souvent, ben, ça vient inévitablement avec une concentration de ces services-là tout au même endroit, avec les meilleurs équipements, meilleures installations possibles, parce que tu ne veux pas te faire barouetter d'un bord de ville à l'autre, là, selon le spécialiste ou le service que tu as besoin d'avoir. Fait que le bâtiment, il est vieux, peut-être qu'il est juste, c'est ça, plus adapté à ça, trop petit... Peut-être qu'on est rendu à une autre étape à réfléchir à sa prochaine vie. Il manque de logement dans le Vieux-Québec, pourquoi pas? Y a-t-il des solutions de ce côté-là? Fait que ce serait une opportunité manquée pour Respect citoyen là, de venir proposer des solutions, pourquoi pas? Là.
En effet. On termine avec le premier Rififi chez Prospérité Lévis, le parti de Stephen Blainey, maire de Lévis. On s'estime sur le payage du futur troisième lien. On devrait-tu en mettre un ou non? Stephen Blainey dit « Hey, moi, quand je prends l'autoroute à Montréal payante, ça me coûte 3,50 puis je l'économise en gaz. » Mais Alain Quirion, conseiller municipal de Saint-Jean, et Annick Tremblay, la conseillère municipale de Saint-Romuald, eux autres disaient « Hey, one minute, au nombre d'impôts qu'on paye, on n'a pas à se faire imposer un payage. » Déjà un test de leadership pour M. Blainey.
Ben, déjà un test de leadership, puis en même temps, c'est super intéressant ce dossier-là, parce qu'on voit qu'il s'assume dans le sens où il dit très ouvertement, moi, mon équipe, ils ont le droit d'avoir leurs opinions, ils ont le droit d'avoir des idées contre moi, puis je trouve ça quand même rafraîchissant, je trouve ça sain. Je pense que Blainey se dévoile à travers cette prise de position-là comme un maire pragmatique. T'sais, il dit très clairement, j'aime mieux avoir un troisième lien qui est payant que pas de troisième lien du tout. Puis il y a assez d'expérience là, pour le sentir que ce momentum-là, surtout depuis l'élection de Christine Fréchette, pour un troisième lien gratuit sans péage, bien ce momentum-là, il s'estompe. Là. En même temps, en coulisses, on l'entend hein, depuis quelques mois que la cohésion ou depuis l'élection là, de l'équipe de Blainey au pouvoir à Lévis, c'est pas parfait. Ils apprennent encore à se connaître, c'est pas rodé à 100%, c'est énormément, presque tous là, des nouveaux élus. Stephen Blainey qui est à son premier mandat comme maire. Donc, ça fait pas mal de choses, mais comme je dis, peut-être que c'est une bonne idée, peut-être que c'est une bonne façon de faire. Tu sais, le maire, il a une vision 360 degrés de sa ville. Il fait l'arbitrage pour différents projets. Les conseillers, eux, il faut qu'ils se gardent une marge de manœuvre pour répondre directement aux citoyens, pour représenter des intérêts qui sont un petit peu plus homogènes que l'entièreté de la ville de Lévis. Fait que ça se peut que ce soit plus difficile pour eux d'avoir une position plus pragmatique là, comme celle de Blainey.
Ah, c'est vrai, on va regarder ça, voir, parce qu'on a deux styles de leadership complètement différents avec Bruno Marchand sur la rive nord et Stephen Blainey sur la rive sud. On va regarder ça dans les prochains mois, voir quel style de leadership se démarque le plus. C'est un bon point que t'amènes, Alicia Despins. Toujours un plaisir de te parler, Alicia. Tu es notre chroniqueuse en politique municipale. On vient de faire une semaine d'actualité en un jour, puis dans une chronique d'à peu près 12 minutes. Mais s'il y a d'autres choses qui se passent cette semaine, on se reparle.
Bonne journée.
Salut, bonne journée. Alicia Despins, excellente chroniqueuse en politique municipale pour nous, ex-conseillère municipale de Vanier-du-Berger.
Je me suis pris quelques minutes pendant que vous discutiez pour me pencher sur le sondage Palace Data qui est sorti.
Oui.
Donc, l'échantillon aléatoire, c'est environ 1017 personnes âgées de 18 ans et plus qui vivent à Québec, qui ont été questionnées par téléphone. Ce sont des grandes questions importantes en ce moment. L'affaire, c'est que Respect citoyen, et je partage l'opinion de notre collègue Maxime, le sort aujourd'hui dans une des grosses journées d'actualité qu'on aurait pu peut-être, en tout cas, le mettre. Mais marge d'erreur de plus ou moins 3 % confiance à 95 % ce qui est énorme.
Oui.
C'est les stats que j'ai devant moi, Jeff.
Vas-y.
À la question, êtes-vous d'accord que le gouvernement municipal et provincial aille de l'avant avec le projet de tramway si son coût de réalisation est à 7,6 milliards de dollars? On est à 56 % fortement en désaccord, 10 % plutôt en désaccord, 12 % plutôt d'accord, 18 % fortement d'accord, puis 4 % au support. Si ça augmente, si on est rendu à 10 milliards de dollars pour le projet de tramway, là, ça monte le taux de désaccord, on est rendu à 61 %.
Okay.
Puis si on dépasse les 12 milliards, le taux de désaccord est à 68 %.
C'est énorme.
Ça ne fait qu'augmenter milliard après milliard. La seule catégorie qui reste plutôt en désaccord puis qui ne bouge pas vraiment, c'est quand on parle justement là, des gens qui sont pas fortement, mais plutôt en désaccord.
Ouais,
les autres
sont
restés dans la même catégorie. Mais sinon, c'est vraiment les catégories du bas qui se disent plutôt d'accord, qui switchent dans fortement désaccord plus ça monte.
Selon le coût, en effet. Donc, ça va vraiment, mais vraiment être un défi pour la Caisse de dépôt et de placement section infrastructure de garder ça un coût qui, entre guillemets, raisonnable, là, parce qu'on s'entend 7,6 milliards. C'est déjà un coût énormément élevé. Au retour de la pause, on parle avec Rémi Villemur, chroniqueur avec nous. On va parler entre autres de QS qui propose d'offrir la citoyenneté québécoise aux résidents permanents si le Québec devient indépendant. Là, on va s'ouvrir les valves à la Justin Trudeau du côté de QS. C'est ce qu'on parle avec Rémi Villemur au retour de la pause.
T'es chaque semaine.